Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Son nom ne lui appartient presque plus, tant il reste accolé à une macabre invention. Pourtant, il était médecin et a passé son existence à soigner et protéger la vie, mais aussi un homme politique qui voulait des châtiments moins cruels et plus humains, sans se douter qu'il plaidait alors pour un mécanisme qui allait faire couler autant de sang. Je vous raconte maintenant celui qui a été dépassé par son invention et l'a âprement regretté, Joseph Ignace Guillotin. Nous sommes le 25 avril 1792 sur la place de Grève, au pied de l'hôtel de ville de Paris. Un homme, encadré par des gardes, arrive au palais de justice tout proche où les juges viennent de confirmer sa sentence pour avoir dérobé avec violence une forte somme à un bourgeois. Cet homme se nomme Nicolas-Jacques Pelletier. Repris de justice, criminel récidiviste, il est condamné à la plus lourde des peines, la mort. Si la foule est particulièrement nombreuse en cet après-midi printanière, ce n'est pas tant pour se réjouir de la mort qui s'annonce que pour satisfaire une curiosité attisée depuis des jours par les gazettes. Tout le monde trépigne en effet de voir de ses propres yeux à quoi ressemble la toute nouvelle machine choisie il y a peu pour se substituer à la corde ou à la hache du bourreau. Nous sommes en pleine Révolution française et les cruautés et injustices de l'Ancien Régime s'effacent les unes après les autres devant les lumières de la souveraineté populaire et le triomphe de la raison. La dite machine consiste en deux grands axes verticaux accueillant en leur sommet une lame affûtée qui, une fois lâchée, glisse entre des rainures pour venir sectionner le cou du condamné allongé sur le ventre, la tête prise dans un carcan de bois. Nicolas Pelletier est mené sur l'échafaud. Pendant qu'on lui retrousse les cheveux et qu'on l'attache à la planche de bois, le public joue des coudes et se dresse sur la pointe des pieds pour ne rien manquer du spectacle. Mais on a tout juste le temps d'apercevoir l'engin, que le couperet s'abat et que la tête tombe dans le panier d'osier tapissé de cuir prévu à cet effet. D'agonie, il n'y a pas eu. Et c'était bien le but. Ce fut si court que certains badauds repartent déçus en regrettant déjà la bonne vieille pendaison et peste contre l'instantanéité de cette machine, une machine qui n'a d'ailleurs pas de nom officiel. Le sobre mot de tranche-tête fait pour certains l'affaire quand d'autres parlent plus pompeusement de hache de la loi, alors que des surnoms commencent à fleurir dans la presse, notamment celui par lequel la coupeuse de tête entrera vite dans l'histoire, la guillotine. Et s'il en est un à qui ce nom ne plaît pas, c'est bien Joseph Ignace Guillotin, médecin de son état, qui, en pensant faire preuve de clémence et d'humanisme, a malheureusement lié pour toujours son nom à ce patibulaire instrument de mort. Joseph Ignace Guillotin est né en Saintonge en 1738. Il a bien failli devenir ecclésiastique après le collège chez les jésuites bordelais, mais opte finalement pour la médecine qu'il étudie à Reims, puis à Paris, où il s'installe et voit à partir des années 1780 défiler toute la bonne société dans son cabinet. Guillotin est un brillant homme de son temps, pétri des idées des Lumières, humaniste, franc-maçon aussi, chantre d'un certain libéralisme moral et politique. C'est pour ces raisons qu'en 1788, au moment où la France voit frémir les prémices de la Révolution et que le roi convoque l'Assemblée des États généraux, que Guillotin prend la plume. Il lance une pétition qui réclame le vote par tête et non par ordre, afin que le tiers-État, censé représenter le peuple, ait son mot à dire pour sa destinée sans être étouffé par la noblesse et le clergé, les deux autres États. La pétition agace les autorités mais ravit le peuple. Joseph Ignace Guillotin se retrouve élu député du tiers quand les États généraux s'ouvrent à Versailles en 1789 et les choses s'accélèrent. L'Assemblée se décrète nationale, le peuple prend la Bastille, les privilèges sont abolis pendant que le roi est prié de s'installer à Paris, tout comme l'Assemblée désormais constituante qui s'attelle à donner au pays de nouvelles lois et institutions. Dans le bouillonnement de réformes, les députés réfléchissent notamment à un code pénal pour établir clairement les crimes et les peines encourues afin de remplacer le relatif arbitraire judiciaire qui régnait jusqu'alors. Dans ce contexte, Guillotin, réputé sérieux et travailleur, mais pas spécialement bon orateur, prend la parole avec brio le 1er décembre 1789 devant ses collègues pour proposer des articles à ses yeux essentiels. D'abord qu'un crime donné soit toujours sanctionné par la même peine, qu'importe le rang ou la condition du condamné. Et surtout, que si peine de mort il y a, elles s'abattent de la même façon sur tout le monde, en se contentant d'ôter la vie sans souffrances inutiles. Fini les supplices, fini les exécutions à l'épée réservées à la noblesse, quand les roturiers étaient pendus ou roués pendant des heures avant de succomber. Au cours des débats, Guillotin vante à ses collègues les mérites de la décapitation. Elle est rapide et sans douleur, d'autant plus si l'on songe à la mécaniser. Un bourreau, tout expérimenté qu'il soit, peut encore rater son coup ou flancher lorsqu'une machine ne tremblera pas. C'est au cours des séances qui s'étalent sur plusieurs mois que Joseph Ignace Guillotin lance un jour à l'Assemblée.
« Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez pas. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. »
Ma machine, que n'a-t-il pas dit là ? La presse s'en fait l'écho et lorsque l'Assemblée fixe finalement, en juin 1791, l'article 3 du Code pénal, tout condamné à mort aura la tête tranchée, les députés pensent tous à la machine de Guillotin. Son nom est désormais lié à un instrument qu'il n'a pourtant pas inventé et qui d'ailleurs n'existe toujours pas. Tout condamné à mort aura la tête tranchée, soit. Mais le texte ne dit rien de plus. Et quand une nouvelle assemblée désormais législative doit statuer sur le modus operandi, Guillotin n'est plus député. On missionne le secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, M. Antoine Louis, pour déterminer quelle serait la meilleure machine. Le rapport est clair. Il faut s'inspirer de systèmes qu'on utilise déjà en Angleterre ou en Irlande. Une lame est filée dans une robuste structure de bois. On consulte bien entendu Charles-Henri Sanson, bourreau officiel de la ville, qui atteste en effet qu'une machine serait bien utile. C'est entendu. Les choses traînent un peu, mais un artisan est finalement sélectionné. Au mois d'avril 1792, l'engin est enfin prêt. La lame, au début plutôt en forme de hache, est rendue nette et oblique après qu'on a réalisé quelques essais sur des moutons vivants et des humains morts. Le 25 avril, Nicolas Pelletier inaugure donc la machine. Les premières condamnations politiques tombent au mois d'août après l'abolition de la monarchie, avant que la guillotine devienne l'emblème de la répression puis de la terreur qui s'abat sur la France. Et pendant que le sang recouvre les pavés de Paris et d'ailleurs, une véritable controverse médicale éclate. Certains affirment que la tête même coupée est toujours sensible. Voilà qui est donc bien cruel. Et qu'en dit Guillotin ? Bah rien. Il préférait ne plus entendre parler de cet engin de mort qui porte désormais son nom. Car si la machine fut aussi appelée Louisette, rapport au chirurgien Antoine Louis, puis affublée d'autres sobriquets tels que le glaive patriotique, c'est bien le nom de guillotine qui s'est généralisé. Le pauvre Guillotin dépité préfère travailler à l'organisation du système de santé et des études de médecine plutôt que de se quereller sur les effets de cette homonyme machine qui tranche même la tête de certains de ses collègues et amis. La terreur passe, les régimes aussi, la guillotine reste et continue sa besogne sous le consulat puis l'empire, alors que Guillotin s'échine à développer avec un certain succès la vaccination contre la variole et à mettre sur pied une académie française de médecine. Une légende a voulu qu'il périsse lui-même sous le couperet, ce qui est faux. Il fut en effet brièvement emprisonné en 1795, manifestement pour des écrits contestataires, mais rapidement libéré sans crainte pour sa tête. Non, c'est dans son lit qu'il meurt en 1814. La triste invention qui porte son nom, elle, lui survivra longtemps. 185 ans à couper des gens en deux. Heureusement qu'il n'était plus là pour le voir.
Europe 1, historiquement vôtre.